Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, trois personnes autour de la table pour nous annoncer une journée mondiale de la contraception qui se déroulera le vendredi 29 septembre. Et donc, nous avons Jean-Loup Fayol, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes de l'association pour les échanges éthiques entre la France et Taïwan. Vous nous expliquerez ce que c'est. Ouais, oui. Ensuite, nous avons Françoise Mar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de collectives, et vous êtes coordinatrice aussi d'une association qui s'appelle le Maillon Manquant.
Un maillon manquant, oui.
Un maillon manquant. On précise un, c'est ça ?
Oui, il y en a d'autres, des maillons qui manquent.
Ensuite, Pascal Lévieux, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes administratrice et coprésidente de l'ESCDD, l'Espace Social et Culturel du Diwa, c'est ça ?
Oui.
Et puis aussi, vous êtes animatrice au collectif.
Voilà, j'anime le réseau des collectives qui s'occupe du soutien aux femmes sur le territoire, en fait.
Alors, on va commencer donc par cette annonce de journée qui aura lieu donc le 29 septembre à l'Espace Social, et elle est organisée par les collectives.
Oui.
Alors, quelle sera la teneur, vu que ça parlera de la contraception, quelle sera la teneur de cette journée et surtout, elle s'adresse à qui ?
Alors, je peux difficilement présenter la journée sans dire que c'est dans le cadre de plusieurs actions qui sont menées depuis le début du mois entre la cité scolaire, l'espace jeune et le centre de planification et l'espace social. Et donc, la dernière journée va s'adresser à tout public. Elle va commencer à 14h par des ateliers et se terminer à 22h environ. Ça va se passer à la salle communautaire et dans d'autres salles pour les petits ateliers. Donc, 4 ateliers en début d'après-midi et puis un temps convivial, des films documentaires et des échanges concernant la contraception et l'avortement. Autour du contexte de la légalisation de la contraception et de l'avortement et comment ça résonne aujourd'hui dans nos vies.
Alors je repose la question, ça s'adresse donc à qui particulièrement, à tous ou...
À des femmes et des hommes. Alors il y a 2 ateliers en début d'après-midi à 14h, de 14h à 15h30, qui seront plutôt réservés à des femmes, c'est-à-dire un cercle de parole. Là c'est pour privilégier l'expression et l'intimité du témoignage, donc le cercle de parole et l'atelier Périnée, mon bien-aimé. Donc où c'est un travail de bienveillance vis-à-vis de son propre périnée. Et puis les autres ateliers, je pense que l'atelier d'écriture de Françoise et l'atelier de Jean-Loup, qui va être présenté par Jean-Loup, pourront être ouverts, je pense, aussi bien à des hommes qu'à des femmes.
Absolument.
Voilà. Oui, en effet.
On peut résumer quand même, quel est l'état actuel
de
la contraception, comment
dire ? Pourquoi on fait cette action, particulièrement dans le Diwa, donc, et particulièrement il y a quelque chose qui se passe à la cité scolaire. Et ce qui est à remarquer, c'est que la cité scolaire a joué le jeu très fort. Je vais avoir une 60aine de questionnaires sur la légalisation de l'avortement et de la contraception, et remplis par les élèves. C'est-à-dire que les professeurs ont adapté leur programme d'histoire pour rappeler tout ça aux élèves. Et en fait, on est parti de statistiques auprès des publics particulièrement jeunes pour constater qu'on a beaucoup plus d'IVG sur le territoire du Diwa que sur le reste du département et sur le reste de la région. Et ça nous a amené à dire qu'il y a un travail à faire sur la contraception et travailler sur la prise en charge de sa propre contraception et la prévention plutôt que des solutions extrêmes qui sont de mettre fin à une grossesse qui est entamée.
Vous avez déjà quelques retours de ces questionnaires? Oui. Et est-ce qu'il vous semble, ça vous a laissé optimiste ou il y a encore de l'éducation populaire à faire?
Ah bon, il y a sûrement de l'éducation populaire à faire. Donc c'est intéressant de voir ce que les gens ont enregistré. Par exemple, moi je vois que les gens de la loi Neuwirth, pour la plupart, ne connaissent pas. La loi Veil, on en a beaucoup parlé, surtout avec le décès de Simone Veil récemment. Moi, ce que je trouve surtout émouvant, c'est les témoignages que je lis. C'est vraiment émouvant de dépouiller ces questionnaires. Donc, on peut le remplir en papier, on le trouve à différents endroits, à l'espace social, on va le trouver dans certains commerces, et on peut le remplir en ligne sur le site de l'espace social et culturel du DIWA. Il y a une présentation de l'action avec un lien pour remplir le questionnaire.
Je crois que c'est l'occasion, cette journée du vendredi, de la semaine prochaine, de réinterroger la contraception dans ce en quoi elle nous concerne tous et toutes, à partir de l'âge pubère, des acquis comme la contraception par voie de pilule, par exemple, sont remis en question actuellement par un bon nombre de femmes. Il y a moins de 50% des femmes qui recourent à ce mode de contraception, à la pilule, pour diverses raisons. Et donc, de génération de femmes en génération de femmes, eh bien, le positionnement est différent par rapport à tous ces moyens de contraception. Et c'est intéressant d'en faire un sujet de discussion et un sujet sur la place publique, avec les hommes, avec les compagnons, avec les conjoints, avec les futurs pères. Voilà, je crois que c'est aussi l'objectif de cette journée.
D'ailleurs, Françoise Marre, vous êtes ici parce que vous animerez un atelier d'écriture, hein, c'est ça. En quoi vous vous êtes sentie impliquée à participer à cette journée?
Il se trouve que professionnellement parlant, je suis salarié dans une association d'Ivoise qui s'appelle Un Maillon Manquant, pas très connue, mais qui a conçu un tout nouveau diplôme universitaire destiné aux professionnels de santé qui commence en janvier prochain, en janvier 2018, et qui s'intitule « Prise en charge de violences faites aux femmes, vers la bientraitance ». Et donc, je passe mes journées, tout comme la présidente Perrine Millet de cette association qui est à l'origine du diplôme, je passe mon temps dans ces histoires de reproduction, de violences faites aux femmes, de comment réparer, de rôle des médecins. Et donc, il est tout naturel que, comme par ailleurs j'anime des ateliers des ateliers d'écriture, le lien est évident pour moi.
Donc la pratique de l'atelier d'écriture pour cette journée, ça va être comment, un exutoire quelque part?
Je pense pas un exutoire, je crois pas. Je crois que c'est plutôt, moi je les conçois plutôt comme un lieu clos, on ferme les portes, marqué du sceau de la confidentialité entre les participants et aussi de, bon, la confiance ne se décrète pas, mais je fais tout pour qu'elle s'installe. Et il n'y a pas d'angoisse de la page blanche, hein, mais bien au contraire, je donne des indications pour écrire. Vous savez, c'est très banal, tous les ateliers, c'est comme ça, les ateliers d'écriture. Je donne quelques contraintes, quelques idées, et puis chacun écrit. Et puis après, il y a une mise en commun. Les gens peuvent toujours refuser s'ils sont très émus. Et puis on rebondit en partageant, et puis on rebondit sur un autre texte écrit ensemble. C'est tout simple. Mais ça permet d'aborder de façon un peu drôle, décalée, politique ou intime, selon l'humeur de chacun et selon mon humeur à moi aussi.
Françoise, vous êtes aussi là pour nous présenter donc un maillon manquant. Et d'ailleurs, vous vous occupez d'une structure qui parle de prise en charge des violences faites aux femmes. Alors, est-ce que vous pouvez un peu développer
Dans la patientèle des médecins en général, une femme sur quatre en France a vécu ou connaît ou subit des violences de tous ordres, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques. C'est énorme, une femme sur quatre. Ce sont des chiffres OMS, de l'OMS. Hein, ce sont des chiffres scientifiquement établis. Or, les médecins ne sont pas du tout formés à aborder la question avec leurs patientes. Et c'est difficile pour eux, parce que parfois, ces femmes ont oublié, c'est un déni involontaire, ou bien sont très mal, enfin très souvent même, mais pas toujours. Et donc, engager le dialogue pour que les médecins puissent, si c'est possible, aider ces femmes à sortir d'une situation qui les met en grande souffrance. Une situation, par exemple, quand elles sont sous emprise d'un homme violent ou quand elles sont encore sous le psychotrauma qu'elles ont vécu des années avant, c'est difficile. Et le docteur Perrine Millet, gynécologue obstétricienne à Montélimar, a vécu ça pendant toute sa carrière de gynécologue, de gynéco-obs, et elle a petit à petit développé, par le biais de formation, au contact des femmes, par son intuition, tout un savoir-faire qu'elle cherche à transmettre. C'est-à-dire, pour que chaque soignant, dentiste, gynéco, généraliste, bien sûr, les généralistes au premier plan, pédiatre, au moment de l'anamnèse, au moment du dialogue avec la jeune fille ou la femme ou la personne âgée, peu importe, homme ou femme, pose la question, est-ce que vous avez eu l'appendicite, quels sont vos antécédents, et est-ce que vous avez subi des violences, est-ce qu'on vous a fait mal, avec les mots qui appartiennent aux soignants. Pour en arriver là, il faut avoir été formé, et il faut aussi ne pas rester seul, et il faut s'être constitué un réseau autour de soi pour travailler, par exemple, avec un outil très précieux, les collectives, hein, représenté par Pascal Évieux ici, mais aussi avec la justice, avec les gendarmes, avec les psychologues, avec les ostéopathes, avec le collègue urgentiste. Donc en fait, voilà, l'objet de ce diplôme qui est tout nouveau parce qu'il ne s'adresse qu'aux médecins, qu'aux soignants, c'est d'aider, c'est de former en 2018 la première fournée en formation continue de professionnels qui sauront, on l'espère, accompagner les femmes dans la bien-traitance.
Vous parlez de violences faites aux femmes. Il y a le cadre conjugal, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres cadres ?
L'endroit le plus dangereux pour une femme, à votre avis, c'est lequel ?
Conjugal.
Effectivement, c'est le lit conjugal, on dit. Voilà. Pourtant, si vous allez à la gendarmerie, vous constatez que les affiches, c'est le lieu domestique, c'est la famille qui est l'endroit, la famille un petit peu au sens large. Hein, intervient. Hein,
oui.
C'est, qui est l'endroit le plus dangereux, c'est pas la nuit au coin de la rue. Bien sûr, les transports publics sont aussi une zone de danger pour les femmes à la nuit. Il y a d'autres, mais c'est essentiellement les agressions sont
des violences intrafamiliales
par des proches.
Oui, je pensais aborder légèrement sur le harcèlement au travail aussi. Je ne sais pas si vous l'abordez aussi.
Il est traité dans le diplôme.
Voilà. On peut, si je comprends bien, vous avez au niveau des collectives une certaine reconnaissance des services judiciaires pour ce que vous faites ?
Alors, une reconnaissance en tout cas, en travaillant en lien avec l'intervenante sociale en gendarmerie. Depuis 3 ans, on a une intervenante sociale en gendarmerie qui est mise à disposition par le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Ce qui fait que ça nous permet d'intervenir auprès des gendarmes, auprès des personnes, voire d'interpeller en cas de situation compliquée. Et cette reconnaissance vient de la pratique qu'on a sur le territoire, en fait. Ça s'installe petit à petit.
Je crois que c'est fondamental que dans un territoire aussi éloigné d'un gynécologue, par exemple, en libéral, accessible toute la semaine, la présence des collectives est fondamentale pour ces femmes qui sont quand même loin des aides qu'on trouve plus facilement en ville, pour qu'elles reçoivent un accueil chaleureux, une écoute et justement aussi ensuite une orientation. C'est jamais très simple de s'y retrouver dans les démarches.
Ça prend du temps en tout cas.
Alors on pourrait aborder un petit peu un historique de vos structures, chacun. On va peut-être commencer. Mais je crois que Françoise, vous êtes un petit peu pressée par le temps, non ? Donc on va peut-être commencer par vous. Un maillon manquant, alors, c'est quoi ? Ça travaille sur quoi ?
Cette association s'est créée à la mi-2016. Elle est toute jeune, elle a 1 an et demi, un peu plus. Et donc son objectif, c'est de former les soignants à prendre en charge la maltraitance. Le principal axe, c'est ce diplôme universitaire, j'ai oublié de le préciser, qui se passe à Paris-Descartes, Grenoble et Montpellier, 3 facs de médecine. Donc une reconnaissance nationale, mais il nous reste à trouver un nombre suffisant d'inscrits. C'est un combat de tous les jours qui est le mien pour faire connaître ce diplôme. Et l'autre aspect de l'activité de l'association, c'est de développer des formations courtes, des actions de sensibilisation non diplômantes, à destination d'un public de soignants toujours, mais aussi un petit peu plus large. Il y aura des ostéopathes, il y aura des psychologues, des infirmières. Sur le territoire, chez nous, dans le Diois, en Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on a déjà des demandes qui nous sont adressées. Et elles, ces formations seront assurées par la docteure Perrine Millet. Et puis, avec à ses côtés, un autre soignant, une généraliste, une kiné spécialisée en rééducation du périnée. C'est une spécialité peu connue qui fait des miracles auprès des femmes qui ont subi des agressions et qui restent pendant le reste de leur vie très très mal dans leur corps. Voilà, deux axes principaux.
Et puis donc, si on veut en apprendre plus sur un maillon manquant.
Alors, on a une page Facebook, on a un profil LinkedIn et surtout, on a un site web. Et je vous invite beaucoup à consacrer 2 minutes 30 parce qu'il y a une vidéo qui présente le diplôme et vous vous rendez compte de l'angle que nous avons choisi, c'est-à-dire penser l'impensable, c'est-à-dire d'abord des apports en anthropologie, en histoire, en sociologie, en économie et statistique sur l'importance des violences faites aux femmes, hein, ce continent. Et là, on parle bien de chez nous, en France. Et puis, la suite du diplôme, c'est beaucoup plus pratique. C'est comment mener des entretiens avec les patientes, quelles sont les prises en charge qu'on peut leur indiquer par la suite, l'hypnose, enfin, tout un tas de disciplines.
Voilà. Et puis, l'atelier d'écriture abordera donc une thématique, hein, ou comment on peut dire un titre, Périnée, mon bien-aimé, avec un point d'interrogation.
Ça sera pas, non.
Périnée, mon bien-aimé, c'est un autre atelier qui va avoir lieu en même temps.
D'accord. Et vous n'avez pas de texte ou de titre précis. Et puis, je voulais savoir, est-ce que vous êtes limité en accueil pour cet atelier ou...
D'expérience, non, on ne limite pas. D'expérience, je ne pense pas qu'on dépassera une douzaine. Mais voilà. J'invite tout le monde à y participer. Encore une fois, quel que soit l'âge, on ressort de ces ateliers, les miens ou les autres. Tout, je pense, avec un sentiment de, je sais pas, d'avoir vécu pleinement 2 heures. Ou 1 heure et demie.
Vous-même avez travaillé dans le milieu médical ?
Du tout.
Vous œuvrez sur quelle carrière, par exemple ?
Moi, j'ai écrit dans la presse d'entreprise, dans le domaine de la santé et dans le social. Je n'ai pas du tout de formation médicale.
Voilà. Et puis, vous avez une visibilité, sinon, sur le DIWA, quelque part, pour vous retrouver au niveau de l'association ?
Nous participons aux rencontres de l'écologie au quotidien. Nous proposons à nouveau cette année une demi-journée, un atelier. Et il y avait eu beaucoup de monde l'an dernier. Et nous ne cherchons pas à être spécialement connus du grand public parce que nous nous adressons aux professionnels. Et notre problématique, c'est plutôt d'amener des professionnels à se dire « Je peux passer du temps sur cette formation. » Et ensuite, dans mon cabinet, je mets l'affiche, mon diplôme. Et c'est une incitation pour les femmes à venir s'ouvrir de ça et à partager. Et voilà, je crois que le but, il est là.
Eh bien, merci Françoise. Et puis, nous allons passer à Jean-Loup. Jean-Loup, alors vous êtes dans une association, vous présidez l'association pour les échanges éthiques entre la France et Taïwan. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que...
Ben oui. Allez. Alors, c'est favoriser tous les échanges. À l'origine, c'est entre les agriculteurs bio du Diwa et les agriculteurs bio de Taïwan. Donc il y a plein de raisons à ça. Agriculteur, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire faire un retour à la terre, faire un retour avec les 5 éléments, se retrouver sur soi et avoir des échanges éthiques et non pas des échanges commerciaux. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc on a aussi un diplôme mais qui est assez amusant parce qu'il s'appelle le MBA. MBA, ça veut dire Master of Business Administration, et ici, le MBA, ça veut dire Master of Body Administration. C'est-à-dire comment être maître de son corps et reprendre le contrôle de son corps. Alors, pendant 7h30, je vais montrer comment ça marche, et à propos du sujet de l'avortement, parce que l'avortement est un stress qui est terrible, c'est une agression, c'est une violence, qui touche autant la femme que l'homme. On n'en parle jamais. C'est pour ça que les hommes sont invités à assister à cette conférence et cet atelier pratique, je dirais, puisque je vais faire du pratique dessus. Mmh. Et on oublie toujours, moi je crois que ce qui m'a le plus choqué récemment, c'est les déclarations que j'ai écoutées deux fois, parce que j'avais du mal à le croire, du président Trump, qui disait que, en fait, les femmes devaient être inculpées lorsqu'elles pratiquaient un avortement. Et en ce qui concerne l'homme, non. L'homme, il n'a aucune responsabilité, il n'a rien à faire, lui, il n'est pas du tout concerné. Alors moi, mon propos, c'est exactement l'inverse. C'est que c'est l'homme qui est 100% responsable d'avoir éjaculé alors que ce n'était pas le moment, alors qu'on ne lui demandait pas, alors que ce n'était pas ça. C'est l'homme qui est 100% responsable, c'est l'homme qui doit se contrôler. La femme, la seule erreur qu'elle a faite, c'est d'avoir choisi un homme irresponsable et non respectueux de la femme. C'est tout. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, cette petite parenthèse étant faite, je n'engage que moi personnellement, je sais que je peux choquer des gens, mais je m'exprime. Donc, ce que je veux dire, c'est que la femme est toujours marquée par l'avortement, l'homme aussi. Mais la femme est toujours, même si elle pense ne pas l'être. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des méridiens. Donc on parle de méridiens, maintenant on en parle beaucoup parce qu'on commence à s'ouvrir à cette réalité énergétique du corps. Il y a des méridiens qui sont systématiquement touchés. Donc en l'occurrence, le méridien de l'utérus et le méridien conception qui sont touchés. Et un jour ou l'autre, de toutes les façons, il y a des conséquences. Mais pour l'homme aussi. Alors il y a des conséquences physiques et des conséquences comportementales. Au niveau comportemental, j'ai plein d'histoires que je raconterai dessus, où on s'aperçoit qu'effectivement, on peut voir le comportement d'une femme qui a subi un avortement, surtout si ça s'est mal passé. Et pour l'homme, c'est exactement pareil. Donc voilà, il y a cette première perturbation, et puis après ça, il y a 5 perturbations en fonction du stress tel qu'il a été vécu.
Je remarque, est-ce que vous acquiescez, ou alors peut-être une remarque à faire, Françoise ?
Quel rapport avec Taïwan ?
Le rapport avec Taïwan, c'est très important, c'est parce que Taïwan est le seul pays qui a, c'est un pays qui a une génération d'avance sur la Chine, c'est le seul qui parle encore et qui écrit le chinois traditionnel, et lorsqu'on parle des 5 sens et des 5 éléments, dans les caractères chinois, c'est inscrit, donc eux, ils comprennent tout de suite. Donc la relation qu'il y a entre la France et Taïwan, c'est qu'à Taïwan, il y a beaucoup de médecins qui continuent de pratiquer la médecine du docteur Sun, qui lors de la dynastie Tang soignait tout le monde avec la voix et uniquement avec la voix. Et il était connu comme l'Hippocrate asiatique. Et donc il y a des recherches absolument fabuleuses. Et pourquoi une relation avec la France? C'est parce que la France est également leader mondial avec, et c'est pas connu du tout, mais avec la découverte de la nutripuncture qui a été faite en France en 1985. Et en France, on a disponible dans toutes les pharmacies des nutriments qui permettent de rétablir les courants vitaux comme l'acupuncture. Exactement, mais c'est vendu dans toutes les pharmacies. La seule chose, c'est que les médecins n'étant pas formés, les choses n'étant pas formées, et puis Big Pharma n'étant pas du tout d'accord par rapport à ça, on n'en fait pas la promotion. Mais lorsqu'on fait des exercices pratiques, que ce soit à Taïwan ou en France, de l'un avec l'autre, là, tout le monde est d'accord. J'ai jamais rencontré un médecin acupuncteur qui ne reconnaissait pas, qui ne vérifiait pas que ces nutriments marchaient. Donc, on arrive à faire cette relation entre la France et Taïwan. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges à avoir de l'un et l'autre.
Je mettrai juste un bémol sur, à titre personnel, mais je m'exprime aussi, sur le fait que l'avortement est toujours traumatisant.
Oui, chacun s'exprime.
Voilà. Il me semble qu'on peut permettre à certaines femmes, certainement minoritaires, d'assumer un avortement comme un geste pour elles, bon pour elles.
Ah, j'ai dit que c'était traumatisant, je n'ai pas dit qu'elles allaient rester traumatisées. Et justement, c'est tout le but de cette conférence, où en une heure et demie, je vais décrire avec une ou deux femmes ou un homme responsable comment est-ce qu'ils peuvent essayer, en écoutant correctement leur voix, d'arriver à se recentrer et d'arriver à sortir de ce stress s'il existe. Au contraire, on doit s'en sortir. Comme toutes les expériences de vie, elles doivent être grandissantes. Donc on a fait une expérience, quelle qu'elle soit, et elle n'est pas négative si on a réussi à la terminer. Donc on est bien d'accord là-dessus, non ?
Jean-Loup Fayolle, vous donc, vous ouvrirez un atelier, c'est ça aussi, pour cette journée ?
Oui, c'est un atelier d'une heure et demie dessus, où je vais avoir beaucoup de transparents. C'est un peu la synthèse de 30 ans de travail que je fais dans ce domaine-là, qui est un peu la synthèse des deux livres que j'ai écrits. Mais c'est quelque chose de très très concret. Je veux être extrêmement pratique, oui, pour que les gens puissent entendre et apprendre quelque chose, qui ressorte avec quelque chose.
Voilà. Et donc, je reviens vers Pascal et Vieux. Oui. Pascal, vous organisez quoi comme activité? Non, mais est-ce que vous animerez quelque chose?
Oui,
également?
Les échanges le soir.
Les échanges en soirée. Ouais. Et puis, on voulait aussi parler d'une autre structure. Et vous êtes membre des collectifs également.
Oui.
Et vous exercez quoi habituellement?
Alors, les collectifs, ce n'est pas une association. Ça a été un collectif qui avait demandé à être adossé à l'espace social pour plus de visibilité en dehors d'un système purement d'assistanat ou social. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était beaucoup de professionnels et des bénévoles et on se réunissait plutôt au centre médico-social. Et on a voulu sortir de ça et rentrer dans un lieu qui avait plus, qui avait moins cette connotation purement sociale. Et puis, c'est devenu progressivement avec, je dirais, du côté des professionnels salariés dans les institutions, des difficultés de donner du temps. Donc ça a reposé que sur le militantisme et sur la connaissance des unes et des uns et des autres pour venir en appui aux femmes sur le territoire. Et actuellement, on a choisi de faire partie de l'espace social et culturel du DIE, d'être présente pendant les permanences du centre d'information sur les droits des femmes et des familles et d'assurer de l'écoute et du soutien pour les personnes qui en demandent. D'ailleurs, ça peut être parfois des hommes qui ont des difficultés au sein de leur vie familiale ou conjugale aussi, exceptionnellement. Mais ça peut arriver à la demande de la juriste qu'on le fasse.
Je me tourne vers Jean-Loup Fayolle de nouveau. Oui. Donc, vous énoncerez, comment dire, un exposé de votre 30 ans de travaux.
Oui.
Et est-ce qu'une heure et demie suffiront pour intéresser et voire même toucher les personnes qui seront là pour cette journée? Est-ce que ça répond à leurs demandes?
Mon propos, c'est d'apporter des informations qui seront nouvelles, qui seront utiles à toutes les personnes présentes. Donc, comme j'ai dit, tout le monde est concerné par l'avortement directement ou non, ou indirectement. Moi-même, je suis passé par là. C'est pas quelque chose d'agréable et il faut savoir comment s'en sortir et puis surtout comment le prévenir. Donc c'est toute l'importance de cette journée sur la contraception et sur le reste. Mais on peut pas parler d'avortement sans parler de l'homme et de la femme. Et quand on demande aux gens, et je le demanderai dans cette conférence, qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce que c'est qu'un homme? Vous serez surpris de voir que 95% des personnes ne répondront pas correctement à cette question. Et je ne parlerai que de choses concrètes, avec des résultats scientifiques, avec des descriptions scientifiques et médicales, et en faisant des démonstrations, pour que les gens puissent voir cette différence. Donc après, la relation homme-femme, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je crois qu'on sait plus ce que c'est, et on fait surtout une confusion énorme entre l'identité sexuelle et le comportement sexuel. L'identité sexuelle, c'est clair, il y a XX et XY, il n'y en a que deux. Alors pourquoi est-ce qu'on veut assimiler les gens à un comportement? Donc c'est un peu les enfermer dans un système qui n'est pas juste. Donc on a une identité sexuelle à la naissance, elle est ce qu'elle est. Après, on en fait ce qu'on veut, et je veux bien être le dernier à juger quelqu'un pour son comportement, mais il faut aussi reconnaître cette réalité au début. La manière dont on fonctionne avec un corps de femme et la manière dont on fonctionne avec un corps d'homme, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a 5 organes méridiens qui sont différents chez l'homme et chez la femme. La plupart l'oublient complètement ou ne le connaissent pas. Donc la relation homme-femme, elle n'est jamais complète. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir une relation la plus parfaite et embellissante et grandissante entre l'homme et la femme. Bon, on n'en parle plus, donc je pense que c'est important d'en parler aussi.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savait-il que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savait-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Ce qu'il y a sûr, c'est que c'est dans les finalités des collectifs, c'est bien d'améliorer les relations entre les femmes et les hommes. C'est pas seulement de défendre les femmes, mais c'est bien qu'on ait des relations égalitaires et respectueuses.
On est complètement d'accord.
Sans parler de la joyeuseté de la relation. Il faudra que je parle de l'atelier de Christelle qui vient en résonance avec un maillon manquant. Et d'ailleurs, c'est à la suite de la conférence de Perrine Millet l'an dernier aux rencontres de l'écologie que Christelle a demandé à faire partie des collectives. Donc, elle propose cet atelier Périné, mon bien-aimé, qu'elle pose aussi dans le cadre des agités du local.
Allez-y, hein. Alors, vous avez peut-être une petite lecture à nous faire.
Oui, mais elle m'a envoyé un petit texte, donc je vous le lis, puisqu'elle ne pouvait pas être présente. C'est un temps d'accueil avec douceur, sensibilité et délicatesse de notre périnée. Grâce à l'écoute des sensations en finesse, d'une approche joyeuse et respectueuse, découvrez votre espace d'intimité et de puissance. Et donc, il est conseillé d'amener un coussin pour s'asseoir et une couverture. Et il est ouvert uniquement à des femmes.
Voilà. Et donc ça, c'est un autre atelier. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ensuite pour finir l'après-midi, suite à toutes ces animations, il y aura un temps convivial avec un partage de collations.
Donc voilà, on aura une collation. C'est quelque chose de léger à partager. On oublie qu'il y a un atelier qui va être un cercle de paroles de femmes aussi, qui va être animé par Marie-Ange Castella-Lévine. Et qui a animé beaucoup de cercles de parole de femmes sur le territoire depuis les années 2010 et qui faisait partie des collectifs dès leur origine. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Moi je suis une personne importée.
Ça sera à quelle heure ?
À 14h. 14h, on aura l'atelier cercle de parole de femmes, l'atelier d'écriture et Périnée, mon bien-aimé. Et à 16h, l'atelier proposé par Jean-Loup, dans la grande salle, là, où on pourra accueillir plus de monde, et qui intervient juste avant l'exposition de tout le recueil de l'expression des habitants du Diois, et le temps convivial qui aura lieu, lui, à 18h30.
Voilà, donc l'exposition et les restitutions de témoignages auront lieu à 17h45. Hein,
dans Alors là, on va accrocher. Il va y avoir, par exemple, au collège, il faut dire que, par exemple, mardi, entre midi et demi et 1h30, en plus de tout ce que les élèves ont déjà fourni, il va y avoir des animations dans le cadre de la cité scolaire, ouvertes aux parents, et où on incite les gens à exprimer des choses. Donc on fait une grande lessive, et sur une grande corde, on va accrocher toutes ces phrases qui sont sorties. Donc un exemple, hein, un bébé si je veux, quand je veux, qui était... Un des slogans que j'ai pu chanter devant les manifestations pour obtenir la légalisation de la contraception et de l'avortement, cette phrase-là, ça peut être des phrases comme ça qui sortent au gré de l'expression des personnes et qui seront accrochées avec des pinces à linge. Il va y avoir de la documentation et il va y avoir... sans doute des mots déclencheurs et dans le temps convivial, des textes, j'espère, des textes qui auront été exprimés pendant l'atelier d'écriture, par exemple.
Et pendant cette présentation et exposition, il y aura aussi, donc c'était plutôt à la suite de la collation, il y aura la présence aussi de monsieur le sous-préfet.
Pendant la collation.
Pendant la collation, donc monsieur Patrice Bouzillard,
oui.
Et puis aussi madame Marie-Madeleine Couèche, déléguée départementale aux droits des femmes.
Oui.
Le département est très impliqué dans votre démarche ?
Alors c'est les services de l'État dans le cas précis, c'est pas le département... Il est impliqué puisque c'est le centre de planification de DI qui dépend du département, qui est un service du département, qui est à l'origine de cette mobilisation autour de la journée de la contraception. Ils avaient demandé déjà en 2016, on n'avait pas réussi à mobiliser suffisamment une équipe pour monter cette action. Et cette année, en travaillant tous ensemble, on a réussi à faire ce travail et on pense faire encore mieux l'année prochaine.
Et puis pour terminer cette journée, donc une projection de documentaire hein, au pluriel et d'échange. Hein.
Oui.
Et donc c'est le thème est contexte et évolution de la légalisation, entre guillemets, contraception et avortement. Alors ce sont des documentaires qui seront autour de ce sujet.
Oui, c'est des petits documentaires. On a opté, alors qu'on avait prévu un visionnage d'un film, on a opté pour des tout petits documentaires, mais qui peuvent nous montrer le chemin parcouru depuis la légalisation, c'est-à-dire depuis avant la légalisation. Et moi, je pense que dans les échanges, on verra aussi le chemin parcouru depuis la légalisation, et ce que disait Françoise Marre tout à l'heure, de génération en génération, comment les choses évoluent. Et c'est pour ça que notre but, c'était de faire une rencontre intergénérationnelle, pour sensibiliser aussi bien les jeunes que les moins jeunes à ces différences d'interprétation et de vécu.
Est-ce que ces journée mondiale de la contraception s'adresse à des générations de femmes en particulier ? Est-ce que, dans votre expérience, est-ce que vous semblez que certaines générations sont plus informées que d'autres ?
Les jeunes, il y a une information qui se fait dans le milieu scolaire. Après, les adultes, pour avoir l'information, il faut aller la chercher dans des lieux. Donc le centre de planification n'est pas réservé aux jeunes, hein, il est ouvert même à des adultes. On a un projet avec l'espace social aussi de faire une antenne du planning familial qui, lui, est associatif, qui ne dépend pas des services du conseil départemental, qui est bel et bien associatif et qui est plus militant. Voilà. C'est compliqué d'obtenir ces infos. On va chercher souvent sur Internet. On peut trouver des sites qui sont anti-avortement, qui vont... ça a été poursuivi récemment. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait des sites qui arrivaient en première place quand on faisait une recherche pour dissuader les personnes d'avorter. Et Donc c'est difficile de s'y retrouver dans toute l'information. Moi, je constate qu'on a beaucoup d'informations sur la protection des maladies, enfin qu'on appelle maintenant des infections sexuellement transmissibles, plus que sur la contraception. Et par contre, pour en parler, je constate que beaucoup de personnes utilisent l'interruption volontaire de grossesse à répétition pour contrôler le nombre de grossesses dans leur vie.
Est-ce que vous restez vigilante quand même sur la politique nationale, sur ce domaine de la contraception et même de l'avortement ? Est-ce qu'on pourrait craindre des effets d'écho de la part des États-Unis ?
Un retour en arrière ?
Oui.
Bah, on l'a vu en Espagne il n'y a pas longtemps. Les pays européens se sont mobilisés pour éviter cette marche arrière en Espagne. Le jeudi 28 septembre, à Valence, plusieurs associations se regroupent pour que le droit à l'avortement soit le même dans tous les pays européens. C'est la première année qu'on fait ça. Donc moi, je fais partie aussi de Femmes Solidaires à Valence. Il y a une personne de Femmes Solidaires qui va venir et les autres seront à cette marche. En tout cas, la demande est formulée, mais il y a une volonté d'organiser des marches pour que les droits soient les mêmes dans tous les pays européens.
Est-ce qu'on peut être informé sur Internet de cette journée organisée sur DIE et comment ?
Oui, alors sur le site, puisque c'est organisé à l'espace social et culturel de DIE, sur le site de l'espace social et culturel de DIE, vous tapez ESCDD à DIE, et vous aurez sur la première page une petite présentation de l'action, et j'essaie de mettre les liens, donc celui de l'association
AEEFT.
AEEFT, je suis dyslexique. Hein.
J'ai choisi les mots parce que chacune des lettres correspond aux 5 éléments également.
D'accord. Voilà. Donc AEEFT, le lien avec le blog est en place. Celui de Christelle Avrin, avec son blog qui s'appelle Terre et Fleurs, est en place, et je vais faire le nécessaire pour qu'un maillon manquant soit aussi en lien. Voilà, j'espère que... Et puis il va y avoir des affiches un peu partout, et puis l'affiche, elle est en lien avec le site de Jean-Loup aussi. J'ai été vérifier le suivi du lien, et on trouve l'affiche de l'événement.
Donc, Pascal Évieux, cette organisation impose par contre des horaires précis.
Absolument. Absolument. Là, pour les ateliers, le reste, ça va être beaucoup plus souple. Mais en tout cas, les ateliers de 14h démarrent à 14h. Et une fois l'atelier démarré, on ne pourra plus accepter personne. C'est-à-dire le cercle de parole de femmes, Périnée, mon bien-aimé de femmes, et l'atelier d'écriture mixte qui ont lieu à 14h, il démarre à l'heure pile et on marquera ne pas déranger, plus personne pourra rentrer, ça dure 1h30. L'atelier de Jean-Loup à 16h pile dans la salle communautaire, c'est pareil, on ferme les portes, plus personne pourra rentrer une fois que l'atelier est commencé. C'est très important par rapport à l'intimité qui va s'instaurer et le respect des uns et des autres.
Et puis, on va illustrer musicalement cette interview avec Pascal qui va nous interpréter quoi, par exemple ?
Alors, j'avais pensé à une chanson, une rencontre entre le masculin et le féminin que j'ai composée, mais je pense aussi à une chanson de Pauline Gilluin qui était sur l'avortement et que je vous interprète de tête, hein, qui dit « Non, non ». Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce nom, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. J'ai roulé avec toi sur le sol pour le plaisir de jouer. Nous nous sentions des chats déchaînés, mais toutes griffes rentrées. Tu es la vie, tu es la joie, tu es un feu follet. Je te sens frémir, je te sens bouillir, et la vie m'envahit. Alors j'ai su que je t'aimerais, que nos vies se rejoindraient. Aujourd'hui, demain ou bien après, nos vies se rencontreraient. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, de peur de tout briser. Je t'ai quitté sans insister, de peur de te brusquer. J'ai roulé avec toi sur le sol pour le plaisir de jouer. Nous nous sentions des chats déchaînés, mais toutes griffes rentrées. Tu es la vie, tu es la joie, tu es un feu follet. Je me sens frémir, je me sens bouillir, et la vie m'envahit. J'ai attendu que le moment vienne pour aller te retrouver. Il fallait un peu que je te surprenne, car tu n'aurais pas osé. Mais je voulais que tu saches que la vie nous poussait du plus profond de mes rêves. C'est toi que j'attendais.
Merci. Eh bien, Jean-Loup et Pascal, merci d'être venus. Françoise étant déjà partie puisqu'elle était appelée ailleurs. Et je vous remercie donc pour être passé au studio. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves. Merci Radio Diwa.
Interview.
Okay, the bird.